Plus que ce que tu demandes, penses ou imagines. Il y a cette vieille question. Si Dieu exaucait positivement toutes tes prières de la semaine passée, qu'est-ce qui changerait? Tes amis perdus seraient-ils sauvés? Les guerres prendraient-elles fin? Les mariages seraient-ils fortifiés? Les malades seraient-ils guéris? Deviendrais-tu davantage l'homme ou la femme de Dieu qu'il désire que tu sois? Si Dieu exaucait positivement toutes tes prières de la semaine passée, qu'est-ce qui changerait? J'espère que beaucoup de ces choses changeraient. J'espère que nous prions tous avec foi, que Dieu peut accomplir de grandes choses dans nos vies et dans le monde. Mais il est aussi facile de se laisser emporter par le cours quotidien de la vie, et que nos prières deviennent un peu plus limitées dans leur portée.
Et cela, en partie, c'est bien. Jésus nous a enseigné à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En d'autres mots, Dieu, donne-moi tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour traverser cette journée. Donc, il est bon de prier pour les petites choses, disons. Mais comme nous le verrons ce matin dans Éphésiens chapitre 3, il est aussi bon de prier pour les choses plus grandes. Il est bon de rêver grand. Il est bon, comme le dit Hébreux chapitre 4, de s'approcher du trône de Dieu avec assurance et hardiesse. Car nous servons un Dieu qui peut encore déplacer les montagnes. Ce matin, c'est le premier dimanche d'octobre. Et je pense toujours à ce dimanche comme étant celui où tout commence, parce que tout le monde est de retour. Les étudiants sont revenus. De nouveaux étudiants sont là. Les gens sont de retour après les vacances d'été. C'est l'un de mes dimanches préférés de l'année, parce que tout le monde est là. Cela signifie aussi que c'est un bon moment pour réfléchir à l'année à venir, pour se fixer des objectifs, élaborer une vision, rêver grand, pour penser à la personne que vous voulez devenir et à celle que vous êtes en train de devenir. Alors, merci d'ouvrir avec moi, Éphésiens chapitre 3.
3:14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. 15. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Nous commençons au milieu d'Éphésiens. Nous sommes au milieu de la lettre de Paul. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père.
Quelle est cette raison qui pousse Paul à tomber à genoux devant Dieu? Si l'on revient au début du chapitre 3,
il dit aussi, c'est pourquoi, avant de parler de son ministère. Alors, quelle est cette raison? Qu'est-ce qui le fait s'incliner devant Dieu, le Père?
Revenons à Éphésiens 2:1-3 pour un peu de contexte.
2:1. Et vous étiez morts dans vos fautes et vos péchés, deux dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours 1 de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, trois parmi lesquels, nous tous aussi, nous avons vécu autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres aussi.
Éphésiens 2 commence par la réalité frappante que spirituellement, nous étions morts dans nos fautes et nos péchés avant de connaître Christ.
C'est comme un train fou dévalant une pente. Un train fou, c'est quand un train se met en mouvement sans que personne ne le contrôle.
Et quand le train commence à descendre la pente, il devient presque impossible de l'arrêter parce qu'il ne fait qu'accélérer.
Si personne ne le contrôle de l'intérieur, la seule façon qu'il s'arrête, c'est de s'écraser.
Et c'est l'image que nous trouvons au début d'Éphésiens 2.
Spirituellement, nous étions comme un train fou dévalant une pente.
Il n'y avait rien en nous qui voulait changer ou faire demi-tour.
Nous étions spirituellement morts, esclaves d'une vie de péché, en route vers un désastre.
Le verset 3 dit que nous descendions la pente vers la colère de Dieu.
Dieu est parfait et saint, et il ne peut rien avoir à faire avec le péché.
Cela va à l'encontre de sa nature et de son caractère. donc Dieu ne peut pas ignorer le péché, Dieu doit traiter avec le péché.
Et la seule réponse juste qu'un Dieu saint puisse donner au péché, c'est de punir le péché.
Et c'est là que nous nous dirigions en allant vers le bas. Nous nous dirigions vers le saint jugement de Dieu contre le péché. Nous nous dirigions vers la colère de Dieu. Nous allions recevoir exactement ce que nous méritions pour notre désobéissance.
La situation semblait mauvaise. Mais alors, au verset 4, nous voyons deux des mots les plus beaux de toute la Bible. Regardons les versets 4 à 5.
4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. 5. Alors même que nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Mais Dieu, deux mots, deux syllabes. Et pourtant ces deux mots changent complètement notre histoire.
Nous dévalions la pente dans le train, nous enfonçons davantage dans le péché, nous dirigeons droit vers la colère de Dieu.
Mais ensuite il est dit, mais Dieu, Dieu a changé notre histoire.
Dieu a ouvert un chemin.
Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas seulement saint.
Dieu n'est pas seulement juste. Mais Dieu est aussi amour.
Dieu est amour.
Dieu est riche en miséricorde.
Dieu est plein de grâce. Le verset 5 dit que même lorsque nous étions morts dans nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ, de la mort à la vie.
Dieu, dans son amour et sa miséricorde immense, a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre.
Jésus a vécu une vie parfaite et a donc été le sacrifice parfait pour notre péché sur la croix.
Sur la croix, Jésus a absorbé la colère de Dieu pour notre péché.
Il a pris notre place. Il est mort et a été enterré.
Pour les disciples et ceux qui étaient les plus proches de Jésus, tout semblait perdu.
Cela semblait fini. Après tout, il était mort.
Mais la mort n'a pas eu de victoire sur lui.
Au contraire, il a vaincu le péché et la mort une fois pour toutes.
Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a rendu vivant.
Et parce que Jésus est vivant, nous pouvons l'être aussi.
Et cela devient encore meilleur au verset 6 et 7.
6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
Les versets 1 à 3 montraient une route qui descendait, comme un train fou lancé vers un accident.
Nous descendions, descendions, descendions.
Mais alors le verset 4 a commencé par « Mais Dieu ».
Et dans les versets 4 à 7,
nous voyons que non seulement Jésus nous a ressuscités spirituellement d'entre les morts, mais que nous continuons de monter, monter, monter.
Dieu continue de nous élever toujours plus haut.
Le verset 6 dit que nous sommes assis avec lui. Nous sommes à la table avec Jésus.
Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il n'y a qu'une seule table de banquet. Et nous ne venons pas comme des invités, car on ne peut pas être invité quand on est chez soi.
Et nous avons une demeure au ciel. Et que s'y passe-t-il?
Le verset 7 dit que la grâce et la bonté de Dieu continuent d'être répandues sur nous. Nous servons un Dieu bon.
C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance.
Peut-être es-tu assis là, en train de penser, c'est trop beau pour être vrai.
Tu te dis peut-être, tout cela semble bien, mais Dieu ne pourrait jamais pardonner quelqu'un comme moi. Je connais les choses que j'ai faites. Le ciel est pour les gens qui sont bons, des gens meilleurs que moi. Cela paraît beau, mais je n'y arriverai jamais. Si c'est ton cas ce matin, regarde avec moi les versets 8 à 10.
8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dans le verset 4, Paul a dit que c'est le grand amour et la miséricorde de Dieu qui nous ont sauvés. Cela nous a fait passer de la mort à la vie. Le verset 5 disait que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais au cas où vous ne l'auriez pas compris, les deux premières fois, Paul répète que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Qu'est-ce que la grâce ? La grâce, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui sont indignes, envers ceux qui ne la méritent pas. Donc si tu es ici aujourd'hui et que tu te sens indigne, ou que tu te sens ne pas mériter, alors tu es au bon endroit, parce que nous étions tous ici dans la même situation.
Nous avons tous ici un passé. Nous étions tous morts dans nos fautes. Nous étions tous indignes. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. Personne ici ne s'est sauvé lui-même. Personne d'ici ne s'est ressuscité lui-même. Nous ne pouvions pas le faire. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés.
Regardez de nouveau avec moi les versets 8 et 9. Comment ai-je été sauvé?
Par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait?
Non. Cela ne vient pas de moi. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mérité? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé?
Non. C'est le don de Dieu.
Oui, mais peut-être que c'est parce que j'ai fait quelque chose qui a plu à Dieu.
Peut-être que c'est parce que je suis une assez bonne personne?
Non. Ce n'est point par les œuvres.
D'accord. Mais peut-être que Dieu m'a sauvé simplement à cause de qui je suis?
Je veux dire, je suis plutôt bien,
non?
Non, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Au cas où vous n'auriez pas compris au verset 4, Paul le rend clair au verset 8 et 9.
Comment avons-nous été sauvés?
C'est par la grâce. 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 C'est par la grâce.
Dois-je continuer?
Ce n'était rien que je pouvais faire. Je ne pouvais pas gagner ma place auprès de Dieu. C'est seulement par sa grâce que ma vie a été transformée. C'était un don. Ce n'était pas un prêt. Un prêt doit être remboursé, n'est-ce pas? Habituellement avec des intérêts, n'est-ce pas? Ainsi, on finit par payer plus que ce qu'on a emprunté. Mais le salut de Dieu n'est pas un prêt à rembourser. Non, c'est un don. Et nous savons qu'un don est gratuit. On n'a pas à rembourser un don, parce que le don a déjà été acheté. Malheureusement, tant de personnes se trompent sur Dieu à ce sujet. Ils pensent qu'ils doivent remettre de l'ordre dans leur vie pour que Dieu les accepte. Mais ce n'est pas cela, l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En d'autres termes, Jésus est mort pour nous, alors que nous descendions encore, encore, encore. Pas quand nous montions, montions, montions.
C'est un don de Dieu. Tout ce que vous pouvez faire avec un don, c'est le recevoir ou le rejeter. Et nous recevons le don de la grâce de Dieu par la foi.
Romains 19 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » En d'autres termes, Jésus a fait tout le travail. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Tout ce que tu as à faire, c'est croire en lui et recevoir sa grâce. Et tu peux devenir un enfant de Dieu. Tu peux être assis avec lui dans les lieux célestes. Il a été ressuscité afin que tu puisses être ressuscité. C'est par la grâce que tu as été sauvé, par la foi.
Voilà l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle.
Et lorsque tu le crois, tu peux être libéré, comme le dit le verset 10.
pour accomplir les œuvres que Dieu t'a créées pour faire. Le verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le mot grec qui est utilisé ici est poiema, d'où vient le mot poème. Certaines personnes traduisent ce mot en disant que tu es le chef-d'œuvre de Dieu, tu es l'œuvre d'art de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Peut-être as-tu une image négative de toi-même. Peut-être as-tu une faible estime de soi. Peut-être que, la plupart du temps, tu penses que tu n'as pas beaucoup de valeur ou de dignité. Mais le Dieu de l'univers dit que tu es son ouvrage. Tu es son poème. Tu es son chef-d'œuvre. Tu peux te regarder et ne voir que tes imperfections ou toutes les choses que tu penses être des défauts en toi. C'est peut-être ainsi que tu te vois. Mais Dieu te regarde et dit que tu es son chef-d'œuvre. Et ce n'est pas tout. Paul continue et dit que tu es son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres ne sont pas la base de notre relation avec Dieu. C'est uniquement par la grâce de Dieu, par la croix, que nous sommes sauvés. Mais nous voyons au verset 10 quels sont le résultat de notre relation avec Dieu. C'est une distinction importante. Voilà donc le contexte d'Éphésiens 3:14. Laisse-moi le relire. 3:14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, 15 de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Qu'est-ce qui pousse Paul à s'agenouiller? C'est l'incroyable grâce de Dieu. Mon premier point ce matin, c'est que la grâce de Dieu t'humilie. Quand je pense au fait que je descendais rapidement dans une spirale de péché hors de contrôle, mais que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, est intervenu et m'a sauvé, cela devrait m'humilier, cela devrait me remplir d'admiration pour notre Créateur. Cela devrait nous mettre à genoux. Autrement dit, lorsque je pense à l'Évangile, je ne devrais pas être orgueilleux, car ce ne sont pas mes œuvres. Au contraire, cela devrait m'amener à l'humilité. Si tu es nouveau ici, permets-moi de te dire que l'humilité est l'une de nos valeurs fondamentales. Si tu viens à l'église pour te donner en spectacle ou pour te vanter, ce n'est pas ce genre d'église. Si tu penses que tu es au-dessus du fait de placer une chaise, de ramasser des déchets par terre, ou d'aider quelqu'un à trouver une place, si tu penses que tu es trop bien pour faire tout cela ou que c'est indigne de toi, permets-moi de te prévenir, ce n'est pas ce genre d'église. Ce n'est pas une église pour se vanter ou se mettre en avant. Ce n'est pas qui nous sommes. Mais si tu veux servir le Seigneur, si tu veux servir le peuple de Dieu avec un esprit d'humilité, nous t'accueillons à bras ouverts. La grâce de Dieu ne devrait pas produire de l'orgueil en toi. Elle devrait produire de l'humilité. Elle devrait te faire tomber à genoux comme l'apôtre Paul. Il continue.
6. Afin que, selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Ce verset est très riche. Selon la grande gloire de Dieu, nous sommes fortifiés avec puissance. Comment? D'où vient cette puissance? Par le Saint-Esprit qui est en nous, ou dans notre être intérieur. Que signifie notre être intérieur? L'être intérieur ou l'homme intérieur est une façon de décrire notre âme, l'aspect spirituel de notre vie. Paul dit ailleurs que même si notre homme extérieur dépérit, c'est-à-dire que même si nos corps s'usent et se fatiguent, notre homme intérieur, l'aspect spirituel de notre vie, est renouvelé chaque jour. Ainsi, le Saint-Esprit nous donne la puissance d'être fort, spirituellement, dans notre vie quotidienne, la puissance de marcher par la foi, la puissance de surmonter la tentation. Donc, ma deuxième observation tirée du texte est la suivante. La puissance de Dieu te fortifie.
C'est sa puissance, et non la tienne, qui te donne la force. Parfois, lorsque nous traversons des moments difficiles dans la vie, nous pensons,
je dois juste être fort pour surmonter cela. Mais la Bible nous dit que lorsque nous sommes faibles, c'est alors qu'il est fort en nous. Autrement dit, lorsque tu te sens faible, lorsque tu te sens tenté, c'est le moment de t'appuyer sur la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, pour te soutenir. Même si nos corps s'affaiblissent avec le temps, ton être intérieur, l'homme intérieur, devrait devenir plus fort et plus vibrant au fil du temps. Où que Dieu t'emmène au cours de la prochaine année, ce sera sa puissance qui te fortifiera, et ce sera sa puissance qui te soutiendra spirituellement. Verset suivant. 17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Paul adresse cette prière aux chrétiens d'Éphèse. Donc ils ont déjà reçu Christ. Mais Paul prie pour que Christ habite dans leur cœur par la foi.
Il peut être utile de considérer ton cœur comme une maison. Il existait un vieux livre intitulé « Mon cœur, la demeure du Christ » qui illustrait cette image. Ainsi, le livre comparait la vie chrétienne à une maison, et Jésus entre dans la maison et va dans chaque pièce. Il se dirige vers les étagères et se débarrasse des mauvais contenus pour les remplacer par sa parole. Il va dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et y trouve de nombreux désirs pécheurs. Il les retire, les jette à la poubelle et les remplace par la joie et la bonté. Il va dans le salon, où il trouve de nombreuses activités mondaines, et les remplace par une communauté pieuse. Il va dans le placard, là où sont gardés les péchés cachés, le vide, et le remplace par la rédemption et le pardon. Et dans le livre, il continue de pièce en pièce dans la maison, nettoyant, remplaçant, les choses par sa bonté. Ce n'est que lorsqu'il a fini de nettoyer chaque pièce qu'il s'assoit dans la demeure du cœur.
Pour que Christ habite dans ton cœur par la foi, cela signifie l'inviter dans chaque pièce de ton cœur, pas seulement dans la pièce qui a l'air bien, mais dans chaque recoin de ton cœur. Ce n'est pas facile, parfois cela peut être douloureux, mais c'est pour cela que Paul prie pour que nous ayons la foi.
Pour que nous fassions confiance à la beauté de Dieu.
Pour que nous ayons foi que ces anciennes choses, présentes dans les pièces de notre cœur, ne sont pas saines pour nous.
Qu'elles nous retiennent en arrière, mais que Dieu est fidèle pour guérir et pour racheter.
17. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, pour que vous, enracinés et fondés dans l'amour, 18, puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.
Ma troisième observation tirée du texte est que l'amour de Dieu t'enracine et t'émerveille.
Dans ces versets, il y a un sens dans lequel l'amour de Dieu nous garde enracinés et fondés. Il nous stabilise. Il nous donne une base sur laquelle nous tenir.
L'amour de Dieu garde nos pieds dans une bonne position. Mais alors que Paul continue de prier, il élève la prière vers l'Esprit.
Il prie pour qu'ils aient la force de comprendre et de saisir l'amour de Dieu pour eux. Puis il dit que l'amour du Christ surpasse même la connaissance.
C'est un amour qui dépasse l'entendement.
Paul essaie même de parler de l'amour de Dieu comme d'une forme.
Il évoque la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu.
Mais il n'existe aucune forme qui puisse contenir l'amour de Dieu.
Il est trop long, trop large, trop élevé.
L'amour de Dieu est si immense que nous ne pouvons pas le saisir complètement.
Mais Paul nous encourage à continuer d'essayer de le saisir,
à continuer de chercher à le comprendre.
Mais avec qui? Seul?
Non. Il dit avec tous les saints.
La vie chrétienne est faite pour être vécue en communauté, avec le peuple de Dieu.
Paul n'écrit pas à Georges à Éphèse, en lui disant, « Voici quelques astuces pour une vie spirituelle. »
Non. Il écrit à l'église d'Éphèse.
C'est une démarche communautaire.
Je t'encourage, dans l'année à venir, non seulement à t'engager envers Dieu, mais aussi envers son Église.
Il peut être facile de se réveiller le dimanche matin et de se demander « Est-ce que je devrais aller à l'église aujourd'hui ?» Puis tu commences à penser à toutes les choses que tu dois faire. Tu regardes dehors et il fait mauvais temps. Et tu décides alors « Je ne pense pas que j'irai à l'église aujourd'hui, je vais simplement rester au lit. » Si tu vas te coucher le samedi soir, ou que tu te réveilles le dimanche matin, sans avoir déjà décidé si tu seras avec le peuple de Dieu, il y a de fortes chances que tu ne viennes pas. En d'autres termes, si tu prends cette décision sur le moment, il sera facile de trouver une raison de ne pas venir. Il y aura toujours des raisons.
Alors ne décide pas sur le moment. Décide aujourd'hui à la place.
Prends l'engagement aujourd'hui d'essayer de comprendre l'amour de Dieu avec tous les saints. Ne perds pas l'habitude d'être régulièrement avec le peuple de Dieu. Quelle que soit cette voix dans ta tête qui te dit « Ah, je ne vais pas rejoindre aujourd'hui », laisse-moi te dire, cette voix ne vient pas du Seigneur. Règle cette question aujourd'hui une bonne fois pour toutes. Sois responsable. Sois fiable. Sois engagé, afin que tu puisses grandir en maturité dans le Christ avec tous les saints ici.
Dernier verset. 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
21. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Paul conclut cette prière par une doxologie. Il termine la prière dans la louange et l'émerveillement.
Ma dernière observation ce matin est la suivante.
La capacité de Dieu t'inspire.
Paul dit que Dieu est capable, il est capable.
Dieu n'a pas de limite, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte, il est capable de faire bien au-delà de tout ce que tu demandes, penses ou imagines, selon sa puissance qui agit en toi.
Notre Dieu est incroyable.
Nous le disons. Nous le chantons.
Mais le crois-tu vraiment?
Je pense que notre véritable foi en cela se reflète dans nos prières.
Permets-moi de revenir à la question que j'ai posée au début.
Si Dieu exaucait positivement toutes tes prières de la semaine passée, qu'est-ce qui changerait?
Est-ce que quelque chose changerait?
Nous avons constamment besoin de nous rappeler cette vérité du verset 20.
Que Dieu peut ouvrir un chemin lorsqu'il n'y en a pas.
Que Dieu peut retourner une situation, même quand tout semble sans espoir.
Si tu étais là dimanche dernier, j'espère que tu as saisi l'opportunité de faire un trou dans le mur de la pièce à l'étage.
Dans l'espace que le centre commercial nous a donné.
Chaque jour de la semaine dernière, plusieurs fois par jour, j'entrais dans cette pièce alors qu'il démolissait les murs et réparait les prises électriques. Et j'ai commencé à penser à toutes les prières qui avait été adressé au fil des années pour avoir plus d'espace. Et j'ai commencé à réfléchir au haut et au bas de ce parcours.
Pendant longtemps, il semblait que rien ne se passait. Ou encore, que nous devions avoir l'espace en bas.
Mais finalement, cela n'a pas fonctionné.
Et, en cours de route, il était facile d'arrêter de prier et de cesser de demander pour nous éviter d'être déçus.
Il y a même eu des réunions de prière où quelqu'un mentionnait la requête pour plus d'espace et cela me faisait un peu grimacer, parce que je n'avais aucune nouvelle information, aucune mise à jour à partager.
Mais Dieu était à l'œuvre et agissait tout au long de ce temps, et à cause de ce long parcours.
Nous avons obtenu l'espace à un prix très abordable comparé à ce que cela aurait coûté il y a 2 ans.
Peut-être que tu peux t'identifier.
Tu pries pour quelque chose depuis des années, mais tu as l'impression que rien ne se passe.
Tu es fatigué de te sentir déçu.
Alors tu as simplement arrêté de prier pour cette chose.
Tu as cessé d'espérer.
Tu as cessé de rêver.
Tes prières sont devenues de plus en plus petites.
Et à un moment donné, tu as juste arrêté de demander.
Je connais cet endroit.
Je pense que la plupart d'entre nous ici ont connu cet endroit, et c'est une réalité.
Mais c'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu.
C'est pour cela que nous avons besoin du peuple de Dieu.
pour nous rappeler ce qui est vrai dans nos moments les plus sombres, pour nous rappeler de continuer à croire, à faire confiance, à prier de grandes prières. Et donc, maintenant, j'aimerais faire passer quelque chose pour que tu puisses le prendre. Dans le sac, il y a un stylo, une carte et un porte-carte. Sur le devant de la carte, il y a Éphésiens 3, 20 à 21, les versets que nous venons de lire. C'est un rappel que Dieu est capable.
Et au dos de la carte, il y a trois puces pour que tu puisses écrire dessus. Ces cartes sont pour toi, tu n'as pas besoin de les rendre. Mais les trois puces correspondent à des rêves spirituels, des rêves relationnels et des rêves personnels. Il y a de la place pour que tu puisses écrire tes rêves comme une prière adressée à Dieu. Tes rêves spirituels peuvent prendre de nombreuses formes.
Cela pourrait être à l'église chaque dimanche, rejoindre un groupe d'études bibliques, lire ta Bible chaque jour, servir dans un ministère, jeûner et prier une fois par mois, lire toute la Bible dans l'année à venir, approfondir ta compréhension théologique. Tes rêves relationnels peuvent prendre de nombreuses formes.
Cela pourrait être prier pour un conjoint pieux, prier pour la force de pardonner à la personne qui t'a blessé, prier pour que Dieu te bénisse avec des enfants, prier pour des amis pieux, prier pour voir tes enfants être baptisés, prier pour la guérison dans les relations familiales, prier pour la réconciliation dans les relations qui se sont détériorées, prier pour des vacances romantiques avec ton conjoint.
Un de mes rêves relationnels, c'est de pouvoir honorer mes parents à mesure qu'ils vieillissent.
Même en vivant à de nombreux kilomètres d'eux, quels sont tes rêves relationnels?
Tes rêves personnels peuvent être n'importe quoi. Ils n'ont même pas besoin d'être spirituels. Par exemple, dimanche dernier, il y avait le marathon ici à Gdansk. J'ai déjà couru quelques semi-marathons, mais jamais un marathon complet. Et cette semaine, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Je suis en bonne santé. J'aime courir et je veux être un exemple pour mes enfants, leur montrer que tout est possible quand on croit et qu'on travaille dur. Tu pourrais te demander, pourquoi prier à ce sujet? Est-ce que Dieu se soucie de la course? Je ne sais pas si Dieu se soucie de la course, mais je sais qu'il se soucie de moi. Il m'aime, et il veut connaître mes espoirs, mes peurs et mes rêves. Dieu n'aime pas seulement la partie spirituelle de toi. Il t'aime tout entier. Souviens-toi du verset. Combien son amour est grand, large et profond pour ses enfants.
Alors prends un peu de temps et écris ces choses. Peut-être que tu sais déjà quoi écrire,
ou peut-être que tu as besoin de quelques jours pour y réfléchir.
Ce n'est pas grave. Mais lorsque tu les auras écrites, retourne la feuille et mets ce verset quelque part dans ta chambre, là où tu pourras le voir.
Narek a fabriqué à la main ces jolis supports en bois pour cela.
Mets-le donc quelque part où tu pourras le voir, comme rappel de prier et de demander à Dieu.
Mon souhait est que tu sois inspiré par la prière de Paul ici, dans Éphésiens chapitre 3, afin de prier avec audace et confiance durant l'année à venir.
Comme dit le proverbe, Dieu peut faire plus en réponse à une prière que nous ne pouvons faire en 100 ans de planification.
Dieu est un bon père. Si tu lui demandes du pain, il ne te donnera pas une pierre.
Son timing est parfait. Et confiance en sa puissance, il en est capable.
Prière. Notre Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je prie qu'afin de la richesse de ta gloire, tu nous accordes d'être fortifiés par ta puissance, par ton Saint-Esprit, dans notre être intérieur. Afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi.
Que nous soyons enracinés et fondés dans ton amour.
Seigneur, donne-nous la force de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ton amour.
Aide-nous à connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance.
Remplis-nous de toute ta plénitude.
Or à toi, ô Seigneur, qui peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. À toi soit la gloire, dans ton Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.